La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour. Nous avons l'habitude, une fois par mois, d'avoir un débat contradictoire. Ce mois consacré à la morale fera exception. Notre invité aujourd'hui est Michel Fourcade. Bonjour Michel. Michel Fourcade.
Bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes maître de conférences d'histoire contemporaine à l'université Paul Valéry, Montpellier 2, membre du comité de rédaction de la revue Nunc, président du cercle d'études Jacques et Raissa Maritain, et vous venez de publier votre thèse 20 ans après, Feu, la modernité, Maritain et les maritainismes, et publiée aux éditions de L'Arbre Bleu. Je souligne pour nos auditeurs qu'il faut commander le livre www.arbrebleuedition.com. C'est un livre en 3 volumes, c'est un véritable coffret, c'est une véritable féerie illustrée et qui doit ses soins et sa réalisation à Nathalie Viette de Paul, Tanguy Cavalin et Augustin Laffay. Michel, votre livre avait déjà fasciné mon père, qui était à l'époque lecteur de votre thèse, et je l'entends descendre l'escalier disant « Mais c'est génial! Comment a-t-il pu voir tout cela, inventer tout cela, mettre en vis-à-vis cette correspondance, ses livres, ses écrits, ses critiques ?» Le titre « Feu, la modernité », je vais le détourner. Il y a une passion chez vous, un véritable feu que vous rappelez dans l'avant-propos. Vous découvrez les grandes amitiés sur une étagère, livre poussiéreux, et vous écrivez plus de 1543 pages qui sont toute une féerie. Je ne veux pas décourager les lecteurs, je veux au contraire leur rendre accessibles ces 3 volumes qui vous font rentrer dans le continent de Jacques Maritain. Michel, je reviens sur votre titre, Feu la modernité, Maritain et les maritainismes. Pouvez-vous nous l'expliquer ?
Alors, d'abord merci pour tout ce que vous venez de dire, c'est très, très gentil. Et ça me ramène donc à 30 années en arrière quand j'ai commencé ma thèse, où j'étais donc un jeune cagneux qui connaissait pas Maritain, qui connaissait pas non plus le thomisme et qui était très sécularisé dans sa culture et dans sa conception de sa connaissance du XXe siècle. Et on avait comme sujet, donc en Cagne, on avait comme sujet en histoire la Seconde Guerre mondiale et on avait comme sujet en philosophie la question du mal. Et à la bibliothèque de mon, avant de découvrir les grandes amitiés, dans la bibliothèque de mon lycée, donc j'ai trouvé 2 livres poussiéreux aussi, en effet, de Maritain qui n'avaient pas été ouverts depuis bien longtemps, et qui s'appelait À travers le désastre, et qui est le premier livre de la résistance, qui est publié à New York en janvier 1941, puis qui devient un best-seller clandestin en France. Et puis l'autre livre, c'était Dieu et la permission du mal, qu'il publie en 1963, où il livre un peu ses réflexions sur la question la plus compliquée de la métaphysique, comment concilier la liberté de l'homme, la toute-puissance de Dieu, l'existence du mal. Et donc les 2 livres si différents, hein, extrêmement engagés dans les aléas du temps, et dans la crise de la modernité, justement, dont la Seconde Guerre mondiale est une des principales, des points d'acmé, des principaux points de manifestation. Et en même temps, l'autre livre très métaphysique et très extrêmement profond, qui s'engageait de manière géniale, à mon avis, dans mon diagnostic de l'époque, mais que j'ai conservé, dans les profondeurs de la métaphysique, m'ont intrigué sur leur auteur. Et c'est comme ça que je suis parti dans cette aventure de ma thèse. Voilà. Et donc, ce qui m'a plu d'abord dans Maritain, moi qui suis pas philosophe au départ, mais qui suis historien, c'était justement la convergence du métaphysicien et puis de l'homme engagé, capable donc de voir aussi profondément dans la métaphysique que dans les aléas du temps. Et les deux avaient ce point commun de toucher à la fois par l'actualité, par les structures mêmes du monde, et puis par les profondeurs de la métaphysique, de toucher le cœur même de la culture, et la culture des temps modernes, dont Maritain a accompagné la crise et la crise sanglante, et comment en sortir, quoi, comment sortir des temps modernes. Et c'est lui un peu qui a inventé cette voie-là, une voie.
Je vous remercie d'insister sur le philosophe dans la cité. L'image du philosophe dans sa tour d'ivoire est complètement contrebalancée par Jacques Maritain. Et à mon sens, l'événement marquant de cette flèche dans un carquois qu'il devient, puisque son mot d'ordre c'est thomistisé. C'est Léon Blois, c'est sa conversion.
Oui, tout à fait. Il faut le resituer, hein. C'est-à-dire qu'il vient de très loin de l'Église, il vient de très loin de Léon Blois aussi. Son grand-père est un des fondateurs de la Troisième République, il a été élevé dans le protestantisme le plus libéral qu'il soit, qui était un peu une sorte de religion officielle là pour les débuts de la Troisième République. Il est passé par l'anarchisme, il va aller chercher son épouse chez une juive russe immigrée. Et donc les deux, lorsqu'ils découvrent Léon Blois, ils sont encore loin, très loin de saint Thomas, mais loin du christianisme aussi. Et ce qui les a d'abord séduit chez Léon Blois, c'est deux ouvrages de Blois un peu sulfureux, La femme pauvre et le salut par les Juifs. Et ils réagissent en tant que deux jeunes gens révoltés, ils réagissent aux propos de Blois sur la pauvreté, et la splendeur en même temps de la pauvreté, et sur l'autre mystère que Blois touchait, donc le mystère d'Israël. Et donc c'est ça qui les conduit à la conversion, puis au baptême en 1906. Et ce n'est que beaucoup, plusieurs mois après que, un peu au départ peut-être pour obéir aux consignes en tant que jeune converti ardent, ils se mettent un peu à l'écoute du pape. Le pape à l'époque c'est Pie X. Et donc c'est un peu pour écouter les consignes de Pie X qu'ils découvrent saint Thomas d'Aquin. Et comme dira Raïssa, l'âme découvre sa patrie, c'est-à-dire qu'il découvre le système de pensée. Alors qu'ils croyaient, après leur conversion, devoir renoncer à la philosophie. Ils avaient commencé dans le bergsonisme, ils s'imaginaient devoir renoncer à la philosophie, et ils trouvent dans le thomisme justement de quoi renouer avec leur vocation philosophique. Mais là, on est déjà donc 2-3 ans après leur conversion, et donc il va rentrer, l'un et l'autre vont rentrer dans saint Thomas assez profondément pour avoir en même temps les moyens de renouveler aussi saint Thomas sur plusieurs points.
Tout à fait. Vous revenez donc sur le sous-titre « Maritain et les Maritanis » et « Maritainisme » parce qu'au fond, Maritain, n'étant pas un clerc, comme son ami Gisson, pourra dire et écrire des choses qu'un clerc n'aurait peut-être pas pu écrire. Et ça, vous le rappelez dans votre conclusion. Je pense que le maritainisme, c'est une manière nouvelle de concevoir le thomisme. En deux mots, c'est d'abord un organisme et pas un système. C'est une implication dans des problèmes concrets de l'histoire. Et c'est surtout une vision progressive et ouverte du thomisme qui ne peut pas être quelque chose, une recette pour vivre ou une recette de métaphysique ou quelque chose qu'on applique. Et c'est la question que je vous poserai. Pourquoi on vous proposez pas le maritainisme et les maritainismes, parce que ce pluriel fait peut-être apparaître les difficultés, les combats, les luttes, les incompréhensions et les différents disciples que Maritain a pu avoir qui ne percevaient qu'une partie de son œuvre ou de son action, Maritain restant toujours un personnage inattendu et surprenant.
Oui, tout à fait. Alors d'abord, les maritimes, d'abord, quand j'ai commencé ma thèse, il y avait aussi toute une réflexion historique sur le thomisme, et c'était un moment justement où on se rendait compte qu'il fallait pas parler du thomisme, mais des thomismes, en regardant toute la fécondité historique de l'œuvre de saint Thomas d'Aquin. Et donc ce qui était vrai des thomismes est aussi vrai des conceptions et des manières d'avoir suivi Maritain, puisque Maritain a eu beaucoup d'amis, de proches, de compagnons de route, de disciples, etc., parfois de manière un peu contradictoire. Il a eu une vie d'autre part très longue, et donc lui-même a eu toute une évolution, bien sûr, dans sa vie, mais ses entourages aussi successifs ont été très divers et variés. Et certains ont été fidèles. Il y a très peu, finalement, qui sont restés fidèles entièrement à Maritain tout au long de son parcours. Et j'en connais quelques-uns. Paul VI, par exemple, a été l'un d'entre eux. Mais sinon, beaucoup ont été fidèles, soit au premier Maritain, soit au deuxième Maritain. Enfin, on a l'usage de distinguer plusieurs Maritains successifs, justement, selon les moments de son œuvre. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis ce pluriel-là. Parce que du coup, la figure historique de Maritain est un peu brouillée. On se demande toujours comment le même homme peut-il avoir été en même temps l'ami d'anti-moderne comme Charles Maurras, ou c'est pas vraiment d'ailleurs l'ami, mais le compagnon de route à un moment au début de son parcours de l'Action française, mais en même temps, simultanément, il était très proche d'ultra-modernes comme Jean Cocteau. Donc comment le projet de Maritain a-t-il pu s'appuyer sur tant de gens différents et sur tant de disciplines aussi différentes, puisqu'il était très proche des artistes, des musiciens, des peintres, des poètes, et à d'autres moments, il a été très proche aussi des sociologues, des juristes, des hommes politiques, des diplomates, etc. Donc il y a toute une influence. On perçoit mal encore toute l'influence qu'a pu avoir Maritain, justement à cause de la dispersion des milieux, des entourages qu'il a pu traverser. Et donc lui-même a développé au fil du temps, tout ça lui est pas arrivé d'un seul coup, mais a développé de sa manière à lui d'être thomiste, qu'il appelle le thomisme vivant, et qu'il explicitera jamais aussi bien que dans ses derniers ouvrages, notamment dans Le Paysan de la Garonne, où il explique ce qu'il conçoit par le thomisme vivant, c'est-à-dire non pas une pensée qui s'arrêterait au XIIIe siècle, le moment de saint Thomas d'Aquin, mais plutôt l'idée comment on peut continuer à partir de saint Thomas d'Aquin une pensée vivante et qui en permanence a besoin de nouveaux aliments pour grandir comme un corps qui se développe. Alors c'est évidemment une manière d'être thomiste tout à fait différente de celle de son ami Gilson, qui lui est un historien de la philosophie médiévale, qui s'attache à retrouver donc le saint Thomas dans son temps. C'est différent du thomisme scolaire tel qu'il a pu être enseigné dans certains séminaires et qui a laissé parfois d'assez mauvais souvenirs aux jeunes clercs qui étaient instruits là-dedans. Donc Maritain, c'est un thomisme tout à fait particulier et qui n'a cessé d'évoluer, de changer, de grandir en fonction aussi des intuitions propres de Maritain. Voilà.
La doctrine équipée par saint Thomas n'est pas la doctrine d'un homme. C'est tout le labeur des pères de l'Église et des chercheurs de la Grèce et des inspirés d'Israël. Sans oublier les étapes antérieures franchies par l'esprit humain, sans oublier non plus l'appoint fourni par le monde arabe, qu'elle porte à l'unité, et non pas certes comme à un point d'arrêt, car elle est un organisme intelligible, fait pour croître toujours et étendre à travers les siècles son insatiable avidité de nouvelles proies. C'est une doctrine ouverte et sans frontières, ouverte à toute réalité, où qu'elle soit et à toute vérité, d'où qu'elle vienne, notamment aux vérités nouvelles, que l'évolution de la culture et celle de la science la mettront en état de dégager, ce qui suppose un effort de l'esprit pour transcender un moment son propre langage conceptuel afin d'entrer dans le langage conceptuel d'autrui et de revenir de ce voyage en ayant saisi l'intuition dont a vécu cet autre. Et parce qu'elle est ainsi une doctrine ouverte, une faim et une soif jamais rassasiées de la vérité, la doctrine de saint Thomas est une doctrine infiniment progressive et une doctrine libre de tout sauf du vrai, et libre à l'égard d'elle-même et de ses imperfections à corriger et de ses vides à combler et de ses formulateurs et de ses commentateurs et du maître lui-même qui l'a instituée, je veux dire libre de lui, comme il l'était lui-même, prête comme lui aux changements et refontes requis par une meilleure vue des choses et aux dépassements et approfondissements demandés par une enquête toujours en progrès. Ainsi écrit Jacques Maritain dans Le Paysan de la Garonne. Thank you.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Déodat de Sévérac, joué par Ado Ciccolini. Pourquoi ? Parce que tous les deux sont intérêts à Saint-Félix de Lauragais, qui n'est pas loin dans Calcate. Et là, vous parliez, Michel, d'artistes. Nous avons deux artistes, dont Clément Jacob, musicien, et dont Robert, dont les tapisseries sont exposées à Sorèz. Et je vous invite à aller regarder ce qu'a fait un des disciples, un des amis de Jacques Maritain. Vous nous parliez donc de l'originalité de Jacques Maritain, et ces phrases extraites du paysan de la Garonne nous font mesurer combien Maritain a approfondi saint Thomas d'Aquin, parce que pour lui, il n'y a de progrès philosophique que par approfondissement. Il est anti-moderne parce qu'il est ultra-moderne.
Oui, ça a été le premier moment, on pourrait dire, de sa pensée, le premier moment, un de ses buts, une fois qu'il est devenu thomiste, ça a été bien sûr de remettre, comme il disait, saint Thomas dans la rue. Bon, et donc, c'était une tâche qui paraissait sortir saint Thomas des séminaires et le remettre comme philosophie vivante. On était en pleine époque du scientisme, même si le scientisme commençait à être un peu en crise autour de la Première Guerre mondiale. On était en pleine époque du positivisme et qui condamnait tout le passé et toute la pensée médiévale. Donc, c'était une tâche qui paraissait un peu démesurée. Et donc la première manière qu'a eu Maritain de remettre saint Thomas en selle, on pourrait dire, pour la culture, pour en refaire un penseur capable d'inspirer la culture, et ça c'est une manière qui a fonctionné, puisqu'il y a eu tout un succès de Maritain dans cette première tentative-là, ça a été donc de présenter saint Thomas dans la grille anti-moderne, mais ultra-moderne. Et au tournant de 1925, d'une certaine manière, il a réussi à refaire du thomisme, non sans peut-être ambiguïté, mais la philosophie à la mode, on la retrouve à ce moment-là dans une littérature, dans un théâtre qui se veut thomiste, et il inspire toute une série d'artistes ou de créateurs et de poètes. Et le saint Thomas, oui, est remis en selle donc par tout cet effort presque d'entrisme et d'agitprope, si on le disait en d'autres termes, qui a caractérisé le premier moment de son empreinte dans les milieux intellectuels.
Oui, vous parliez à la fin de votre livre, dont je rappelle le titre, Feu la modernité, Maritain et les maritainismes, paru chez arbrebleuedition.com, car il n'est trouvable, commandable que par Internet. Vous parliez à la fin de squelettes et de carapaces. C'est faute de squelettes que certains animaux se sont entourés de carapaces, expliquait le père Congar, en glosant sur un mot du père Émile Merche. Je crois qu'aujourd'hui la carapace, qui serait le système tridentin, le tridentinisme, est en grande partie dissoute, écaillée en quelque sorte, et que le besoin d'une sorte de charpente intérieure devient plus impérieux. Pourquoi, Jacques Maritain, vous semble-t-il avoir secoué la carapace au profit du squelette ?
Alors, ce qui est intéressant dans la pensée de Maritain, c'est que souvent, disons, on avait toute une tradition dans le catholicisme, dans la pensée catholique aussi, anti-moderne. C'est pas Maritain qui invente ce positionnement-là. On a toute une pensée, on pourrait dire, réactionnaire avec des grands auteurs, Joseph de Maistre, Donoso Cortés, des grands auteurs du 19e siècle, etc. Mais c'était rare que la pensée anti-moderne s'interroge elle-même, on pourrait dire, et interroge, le monde restait partagé un peu entre, il y a les bons, et puis les méchants c'était les protestants, les bons c'était justement rester dans le prisme justement de l'église tridentine, ce qui s'était opposé de la contre-réforme, s'opposant à la réforme, etc. Et la nouveauté de Maritain, justement peut-être parce qu'il vient d'ailleurs, c'est que son regard sur la modernité est beaucoup plus global, c'est-à-dire qu'il n'incrimine pas uniquement la modernité philosophique, il n'incrimine pas uniquement la modernité protestante ou la modernité allemande ou la modernité révolutionnaire, mais il voit bien que l'Église moderne elle-même, l'Église, la figure même tridentine, on pourrait dire, de l'Église, est appelée à évoluer. Hein, et les cadres de cette Église tridentine, eux aussi font partie de la modernité, eux aussi sont structurants de la modernité. Et donc, lorsqu'on dit feu la modernité, c'est que cette époque-là de l'Église était... Maritain ne faisait aucun mystère pour dire qu'elle avait eu toute une grandeur et une fécondité, mais elle avait également tout un épuisement. Il fallait en prévoir en prévoir l'au-delà, on pourrait dire. Et donc c'est en cela que Maritain fait partie de ceux qui, d'une certaine manière, préparent sur un certain nombre de points, ce qui sera Vatican II, la réforme de l'Église, l'aggiornamento, comme dira Jean XXIII, mais au sens le plus profond du terme. Alors, notamment, il a examiné un certain nombre de questions, comme celle de la liberté religieuse, sur lesquelles l'Église moderne avait des blocages, et sa pensée ici politique, hein, et sa pensée théologique, de théologie politique, a joué un rôle essentiel. Alors, c'est pas le premier temps de son œuvre, ça, mais c'est le moment qui s'ouvrira dans son œuvre après la condamnation de l'action française par le pape Pie XI en 1926-27, et qui va conduire à des grands livres comme Humanisme intégral, d'abord en 1936, puis ensuite, après la guerre, L'homme et l'État, et qui conduira finalement, par certains côtés, jusqu'à Vatican II. Vous savez que c'est à lui que le dernier jour du concile, le 8 décembre 1965, le pape Paul VI a remis symboliquement le message du concile à tous les hommes de pensée et de science. Et donc Maritain est très présent dans la toute dernière séquence de Vatican II.
Je suis très sensible au centre de votre livre, c'est la fin de la deuxième partie, le début du troisième tome, où vous vous arrêtez sur Humanisme intégral et sur l'impossible antisémitisme, qui est une œuvre phare de Jacques Maritain, écrit en 1900, publié en 1938 et déjà rédigé en 1937. Et c'est le premier intellectuel à mettre le doigt sur la montée du nazisme de manière publique en publiant Impossible antisémitisme, œuvre dans laquelle il insiste sur le mystère d'Israël au lieu de le penser comme un problème. Et vous avez des pages magnifiques et vous consacrez aussi des pages à Benjamin Fondane, qui fut un grand ami des Maritains. J'aimerais, dans les minutes qui nous restent, montrer aussi au lecteur votre verve. Vous êtes capable, en tant qu'historien, d'avoir une culture aquiline, j'allais dire, qui prend du recul par rapport à l'histoire, tout en nous plongeant dans le réalisme. On a l'impression de voir Jacques et Raïssa faire leur valise pour partir prendre un train, être à une terrasse de café, ou presque. Et en même temps, vous avez un style qui, au-delà du style sérieux de l'historien et du philosophe que vous êtes, un style très littéraire. Je vais citer simplement la dernière phrase, le dernier paragraphe, et vous laisser la parole pour les 3 minutes qui resteront. Vous dites à la fin, « Que suis-je ? Un converti, un homme que Dieu a retourné comme un gant, citant Maritain, et vous commentez. C'est de nous également qu'il dépend aujourd'hui que l'envers de l'histoire devienne son endroit. Que nous ont dit toutes ces rencontres, toutes ces conversions, toutes ces aventures, toutes ces nuits et ces soleils de la pensée ? Que la modernité ne s'est pas le moins du monde émancipée de Dieu, et que pour avoir eu recours à des moyens plus pauvres et moins décoratifs que lors des âges précédents, l'esprit évangélique n'en est pas moins venu la visiter, la transformer. Votre plume est admirable, et je tiens à le dire aux auditeurs que le nombre de pages pourrait décourager, pas du tout. Michel, à vous de conclure dans les 3 minutes restantes.
Écoute, merci beaucoup, Laurent, mais on fait ce qu'on peut, on essaye en tout cas. Je pourrais rebondir sur justement les lignes que j'avais choisies en conclusion. C'est-à-dire que, comme je le disais, quand j'ai découvert Maritain, mon Dieu, j'étais dans une culture extrêmement sécularisée, celle qui nous... J'étais tout jeune, j'avais 18 ans, donc, mais tel qu'on peut l'avoir au sortir de 10 ans d'enseignement secondaire. Et donc pour moi, la présence de Dieu dans l'histoire, dans la culture, dans la littérature, dans la poésie, c'était des choses qui s'arrêtaient un peu à Corneille et Racine, quoi. Donc au grand siècle, et puis ensuite, bon, on connaît, il y a les Lumières, il y a Rousseau, il y a Voltaire, mais on perd un peu toute trace de la pensée chrétienne. Donc c'était un peu mon état d'inculture lorsque je suis entré en Maritain. Et ce qui m'a intéressé d'abord dans Maritain, enfin, ce que j'avais pressenti un peu en découvrant ses premiers ouvrages, c'est qu'on avait là une sorte d'agent secret, peut-être. C'est-à-dire que son influence n'est pas toujours marquante, ça ne se voit pas toujours, justement parce qu'elle est très dispersée sur beaucoup de gens différents. Mais l'exemple de Maritain et puis de l'impact également de sa pensée, parce que c'est pas une biographie que j'ai rédigée, c'est plutôt une étude sur l'impact de sa pensée. L'impact de sa pensée montrait justement comment son influence avait été grande sur le siècle même, jusqu'à le modifier profondément, non seulement le siècle politique, non seulement par ses relations, par exemple, politiques, y compris dans la guerre avec le général de Gaulle, etc., ou le rôle qu'il pourra jouer dans la nouvelle Déclaration universelle des droits de l'homme, mais également ses relations dans l'Église, au plus haut niveau, avec une série de papes successifs, etc. Et donc, voilà en quoi Maritain m'apparaissait un agent secret, une note de mes formules, je me rappelle bien, c'est l'agent secret du roi des rois sur les terrains du prince de ce monde. Et donc, d'une certaine manière, oui, de découvrir Maritain m'a permis de me réconcilier un peu avec mon siècle, ou celui dont j'étais en tout cas l'héritier le plus direct, et d'y retrouver partout, même dans les endroits les plus inattendus, même dans les endroits les plus lointains, comme le surréalisme, etc., mais partout une trace de Dieu extrêmement vivante et enthousiasmante, on pourrait dire. Voilà. Et donc, comme notre culture actuelle était beaucoup moins sécularisée, en réalité, qu'elle ne le croit, et c'est un peu ça, disons, l'envers de l'histoire, c'est-à-dire qui nous est caché, dont on en prend peu conscience, mais que si on gratte un peu, et Maritain permet justement ce travail-là, surtout par les immenses archives qu'il nous laissait, eh ben, on redécouvre partout la source sous-jacente. Merci beaucoup.
Merci à vous, Michel. Et je rappelle à nos auditeurs, Michel Fourcade, Feu de la modernité, Maritain et les maritainismes, publié aux éditions arbrebleu.com. À la semaine prochaine. Au revoir.